Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'ActuTech ce soir, avec sur le plateau de Tech & Co, Fanny Bouton. Bonsoir Fanny.
Bonsoir.
Fanny qui est directrice quantique chez OVH Cloud. Tout va bien Fanny?
Écoute, toujours.
Est-ce que tu t'en sors avec le quantique? Est-ce que tu veux qu'on en parle ce soir?
Non, on en reparlera pendant VivaTech, tu vas voir, on va avoir plein d'annonces, plein de choses chouettes.
Mais c'est vrai que bientôt il y a VivaTech.
Il y a bientôt VivaTech, et si, alors vendredi, soit à l'écoute, le président de la République va annoncer son plan pour V2, qui a de fortes chances. Suivez, vous allez voir. Il y a des
On va avoir plein de choses à raconter la semaine prochaine alors.
Oui.
Voilà. Et puis VivaTech, bien évidemment, qui se profile à l'horizon comme chaque année. Ça sera les 10 ans de VivaTech, donc ça va être, à mon avis, un bel événement. Fanny, donc, qui est avec nous ce soir, à tes côtés, c'est Stéphane Zibi. Salut Stéphane.
Salut François.
Un vrai plaisir que de t'accueillir. Tu es consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Et puis Jérôme Marin, voilà.
Salut.
Jérôme qui est avec nous. Jérôme, fondateur de cafetech.fr. Et encore une fois, je vous invite chaudement à vous abonner à la newsletter de cafetech.fr pour avoir toute l'actualité de la tech vue par Jérôme chaque jour quasiment. Hein.
Quasiment, enfin, on essaie.
En tout cas, très souvent. Pour débuter donc, la Google I.O., je vous le disais, on en a beaucoup parlé hier soir, c'était au siège de Google à Mountain View en Californie. Le géant américain a dévoilé sa vision de l'intelligence artificielle pour les années à venir avec un plan quand même très ambitieux. Mélinda Davansoulas, qui est journaliste à BFM Tech que vous connaissez, était sur place. Elle nous résume les grosses infos à retenir et après, bien sûr, on revient sur ce plateau.
La productivité, eh bien, elle va tout simplement changer. Ça commence par un nouveau modèle présenté ici, Gemini 3.5 Flash. Alors figurez-vous qu'il sera 4 fois plus rapide que les modèles traditionnels que l'on connaît chez Google et ailleurs, et surtout 2 fois moins onéreux. Ça appelle forcément à la généralisation. Il y en aura aussi un modèle Gemini Omni pour les créatifs. À partir d'un texte, d'une photo, d'un son, eh bien, vous allez pouvoir créer la vidéo de vos rêves. En tout cas, les agents autonomes sont là pour tout faire. Ils fonctionneront même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et même si votre ordinateur ou votre smartphone est fermé, ça s'appelle Gemini Spark. Ça va être capable, en fonctionnant depuis le cloud sur des machines virtuelles, et bien de trier tous vos documents, de vous faire des notes de synthèse, un résumé des mails reçus pendant la nuit, un véritable assistant en somme. Et même pour vos achats, figurez-vous, Gemini intervient, le panier universel est annoncé, ce sont des agents qui vont pister les produits que vous voulez acheter, surveiller les variations de prix, s'ils sont en stock ou pas, et même trouver les bouts de réduction qui vont avec. Avant de faire les achats, vous n'avez plus rien à faire. Il faut dire qu'en un an, Gemini, l'application est passée de 400 millions à 900 millions d'utilisateurs par mois. Forcément, ça donne des idées à Google. Reste à savoir désormais ce qu'il restera à l'être humain à faire. Peut-être parler simplement des exploits de ces IA.
Ah donc, bien sûr, on voit que Gemini atteint sa vitesse de croisière et elle est très impressionnante avec énormément d'annonces hier soir. Omni, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Peut-être qu'on va commencer avec Jérôme et puis après, on va échanger là-dessus. Il y a Omni, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui t'a impressionné sur durant cette keynote?
Alors déjà, il faut bien dire, parce que moi je pense que ce qui est impressionnant, je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas qui est important, c'est qu'il... Google, il y a une force de frappe que n'a pas forcément d'autres acteurs. Il y a plein d'annonces, il y a plein de produits où ils peuvent mettre de l'IA finalement, ce qu'il n'y a pas, par exemple Apple, ce qu'il n'y a pas forcément OpenAI ou Anthropic. Et puis ils concentrent toutes leurs annonces. La plupart des annonces sont concentrées à un événement. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont présentées.
D'ailleurs, peut-être même trop de choses. C'est-à-dire que c'est compliqué, pour nous, journalistes, de faire un point sur tout ce qui a été présenté.
Bah après, c'est dans la tradition, la Google I.O., ça a été comme ça. Avant, c'était Android, maintenant, c'est Gemini ou enfin l'IA.
Et il y a eu un autre événement Google la semaine dernière, justement.
Ouais, parce qu'en fait, ils ont sorti Android de Google I.O. pour le mettre à un événement spécial. Moi, je trouve ce qui était intéressant, au-delà des annonces, c'est finalement, il y a 6 mois, on se disait tous, ah là là, Google, ils ont tué le game, on va dire, avec Gemini 3, ils ont dépassé OpenAI. Et là, ces dernières semaines, on se disait plutôt, ah mais en fait, ils sont où dans le code? Parce qu'aujourd'hui, le gros nerf de la guerre, c'est le code informatique.
Ouais.
Et ils ne sont pas forcément présents. Donc là, ils ont beaucoup insisté sur ça, et ils ont beaucoup insisté sur l'agentique également, où ils étaient un peu moins présents. Et si on regarde la Google I.O. il y a un an, et la Google I.O. de cette semaine, enfin d'hier, c'est vraiment, on voit le changement du marché, en fait. Il y a un an, on était plus sur les assistants, les chat GPT, en gros. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'agentique, sur une autre IA, finalement. Et donc, c'est vraiment la bascule ça symbolise vraiment la bascule du marché.
Oui, c'est vrai qu'on parle quasiment plus de ces assistants conversationnels, style ChatGPT ou Gemini Voice. Mm. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vrai. Donc, très intéressant. Omni, un truc de dingue quand même. Rappelons ce que c'est Omni. Je sais pas si vous avez suivi.
Ah bah j'ai même testé même.
Tu as testé.
Ah bah oui.
Donc, tu pars d'une vidéo que tu as tournée.
Oui.
Et tu peux modifier cette vidéo comme tu le veux.
Bah exactement, et on est en train d'arriver à encore une nouvelle étape. De toute façon, hier, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Même si pour moi, Sundar Pichai, il a parlé que d'une chose pendant 2 heures, c'était Gemini. Et même quand il ne parlait pas de Gemini, il parlait de Gemini. Et donc c'était quand même quelque chose... Non mais il faut dire les choses. Et en fait, même il y a des choses qu'ils n'ont pas dites et qui vont être encore visibles, parce qu'on va encore entendre parler beaucoup de Gemini lors de la WWDC dans quelques jours par Apple, parce que Gemini va être dans les iPhones embarqué dans iOS 27. Mais bon, non, ce qui est un truc de dingue, donc par rapport à Omni, puisque la seule limite, c'est même plus, avant je disais la seule limite, c'est notre imagination, mais là ça va au-delà de tout en fait. Tu mets n'importe quoi, une carte postale, tu donnes juste un début de une vieille carte postale des années du 20e siècle avec une vieille photo en sépia, et tu lui dis voilà, il y a un drone qui va passer là, arriver, et tu donnes 3 lignes de scénario.
Oui, de prompt.
Et voilà, et en gros tu te retrouves avec une vidéo qui va au-delà de tes espérances. Avec un, tu dis, je vais mettre.
Qui va restituer le décor qu'elle voit sur la carte postale.
Bien sûr. J'ai fait un test, mais un truc de dingue. Des gens dans un désert, et voilà, et donc le drone, et hop, on voit, et on voit ce qui distribuait comme si c'était des prospectus. J'ai testé. Je pensais même pas que ça pouvait aller au-delà. Je vous montrerai la vidéo tout à l'heure, si vous voulez, mais elle est de dingue. Donc, ce que je suis en train ce qu'on est en train de vivre, c'est, maintenant, voilà, il n'y a plus que maintenant à assembler. On va jouer vraiment les orchestrateurs, à prendre un bout de Claude pour scripter comme il faut ce que nous on a en tête, prendre Omni pour pouvoir réaliser des vidéos, et après, faire la diffusion pour des campagnes. Est-ce qu'on a encore besoin de créatifs? Est-ce qu'on a encore besoin de directeurs artistique,
et on aura encore besoin. Et on remet encore sur le plat cette question.
Bah,
c'est vrai, parce que ça pose énormément de questions.
On va encore, pousser plein de choses. Hein,
ouais.
Sérieux.
Fanny, on a l'impression que là, hier soir, Google montrait sa toute puissance finalement, parce qu'ils sont partout, en fait.
Ah ouais.
Ils sont dans tous les domaines, et ils rajoutent des couches d'IA dans tous les domaines, en fait. C'est ça qui est fou.
Alors, c'est pas les seuls à aller dans tous les domaines comme ça. Hein, tous les
mais comme le disait tout à l'heure Jérôme, c'est vrai qu'ils ont cette
Google
puissance.
Google a une force de frappe énorme. À un secteur R&D, des équipes R&D énormes, hein, et en effet, ils ont aussi besoin d'évoluer. Il faut se rappeler, c'est que la barre de recherche Google était en danger depuis quelque temps. On le voyait avec l'évolution justement du. On va tous demander maintenant plutôt à un agent IA de nous dire, de nous faire une recherche, que d'aller taper dans Google. Ça, taper dans la barre de recherche, c'est devenu old school. Et comment ils se réinventent autour de l'IA? Ils les mettent dans tous les produits, c'est normal. Donc là, Jérôme disait, l'année dernière, on parlait à ChatGPT, on parlait à Gemini. Et là, maintenant, on arrive à l'ère agentique. Ils suivent aussi ce que le grand public est capable de faire. Quand tu dis ils n'étaient pas sur les développeurs, oui, parce que les développeurs, c'est encore les geeks, les nerds derrière leurs écrans qui sont en train de préparer tout ça. Et là, on voit qu'eux, ils s'attaquent aussi quand même à attendre et à arriver toujours sur le marché où il y a le plus de clients, le grand public. On facilite, une fois que c'est devenu mainstream, que c'est devenu plus facile à utiliser. Et là, ils le rendent transparent. C'est pas un objet tech de geek où, comme tu disais, il faut aller dans Claude, créer ses agents, etc. Même pour VibeCoder, c'est compliqué. Là, c'est intégré dans nos interfaces qu'on connaît, c'est facilité et on se rend même pas compte. Le danger que je vois derrière, par contre, c'est la consommation de Claude, de GPU, la façon dont on va rentabiliser tout ça et que ce soit vraiment accessible à tout le monde.
Après, Google est bien armé là-dessus. Hein,
ils sont bien armés, mais là, on arrive, quand on regarde et qu'on soulève le capot, il y a quand même des sujets. Moi, je suis fascinée, je suis fan de ça, j'attendais ça. Il y a mon moi de 16 ans qui est en train de se dire c'est génial, et il y a mon moi de 55 ans qui se dit oh là là,
oh là
on
là.
A mis les
comment
non mais Voilà, ouais. Mais
on tu parles de la consommation énergétique, enfin de l'impact environnemental sur de tout ça en fait, c'est ça?
Bah, il y a si tu veux, dans le cloud, etc. C'est génial, il y a un business monstre à faire dans tous les sens, mais comment t'arrives à avoir assez de GPU, t'arrives à produire tout ça, il y a un impact environnemental, il y a un coût, et comment tu le rentabilises aussi? Parce que là, depuis quelques temps, on parle IA, mais qui rentabilise vraiment? On voit des chiffres et des chiffres d'affaires énormes, mais ce n'est pas rentabilisé.
Et d'ailleurs, Google a un peu modifié ses abonnements. Je ne sais pas si vous avez suivi. En baissant un peu les prix, par exemple en offrant YouTube Premium, enfin des trucs comme ça. On voit que c'est pas sec, ça. Ils ne savent pas trop comment valoriser.
Ça tout à faire des économies, on en parlera peut-être dans un autre sujet pour Meta, mais il faut dire les choses telles quelles. C'est quelqu'un, sous couvert de l'anonymat, qui m'avait expliqué que celui qui prenait l'abonnement le plus cher chez Claude à 200 € par mois, en fait, ça coûtait 5 000 € par jour.
Par jour, par mois.
Par jour.
Tout dépend de l'usage que tu en fais.
Gros devs, c'est des gros utilisateurs.
Mais après, ils sont déjà tous en train de changer les quotas. Mais on est dans la période où on te fait...
C'est pas possible que ça dure longtemps, t'imagines, ça fait 150 000 euros par mois.
Il y a un décalage.
Mais pourquoi? Parce que quand t'as goûté à ça, quand t'as des devs, moi j'en vois plein des devs, quand t'as goûté à ça, là, au vibe coding et tout, et que tout d'un coup on te dit, attends, on va te couper, parce que là maintenant c'est x10. On t'a fait goûter un truc que t'as pas envie d'arrêter. C'est de la drogue, ce truc-là, quand t'es un développeur. Non, mais faut être clair et net. Tu étais le premier à le dire. Tu t'enlèverais tes agents là que tu t'es fait. Non. Voilà.
Je vous dis, mais même si on retombe un petit peu plus bas et qu'on se dit, est-ce qu'on pourrait se passer de ChatGPT aujourd'hui?
Moi, oui.
Ou d'un assistant.
Je pense que notre génération sera. On a tellement appris à s'embêter, à prendre le temps de faire.
Non, mais petit à petit, moi, il y a le poison qui s'infuse. Dans le quotidien,
c'est plus productif, plus vite.
Tu dis, il y a 15 ans, tu disais, est-ce que je pouvais me passer de Google? Donc, ça fait partie du.
Oui. Ou alors, il y en a qui disaient, non, moi, je veux pas de smartphone, j'aurais jamais de smartphone.
Non, mais ça évolue. Mais en tout cas, on fait tout pour nous rendre accro à ces services. Et à un moment, il y aura un coût. Je me souviens de Jérôme Colombin qui disait en 2004-2005, quand on a eu les forfaits. Ouais. Je pense que c'est la première conf, on s'est rencontrés d'ailleurs. T'avais Orange qui annonçait que le forfait moyen des abonnements Internet et téléphonie serait de 150 € par mois. Et Jérôme disait, jamais de la vie, parce que il faut que les gens y mangent, etc. On peut pas mettre autant dans la technologie. J'aimerais bien savoir quel est le panier moyen maintenant dans la technologie avec les abonnements Netflix.
L'abonnement télécom a baissé. C'est vrai, ça nous a fait gagner du pouvoir d'achat. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'avec tous les abonnements qu'on a,
toute la famille et tout, on y est toujours à ce fameux panier de 150 € par mois. Donc voilà, ça me fait marrer parce que je me souviens de cette conférence qui date un peu.
Qui a plus de 20 ans. Le temps passe.
C'est le jour où on s'était rencontrés.
Ouais, Jérôme.
Je voulais, parce que tu parlais de la barre de recherche, ils ont aussi annoncé Google ils rajoutent de l'IA sur le moteur de recherche. Et aujourd'hui, le moteur de recherche, ça reste le plus gros business de Google. C'est ce qui rapporte le plus, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Peut-être pas forcément en termes
de... Mais c'est la vache à lait,
Voilà, mais le cloud commence à rapporter aussi pas mal d'argent. Ils ont rajouté de l'IA et notamment le fait que maintenant, quand tu tapes dans la barre de recherche, tu t'es plus limité par le nombre de caractères et la barre de recherche s'agrandit. Donc,
presque prompter alors.
Exactement,
finalement.
Tu promptes. Tu peux même mettre une photo, une vidéo dans la barre de recherche. En fait, donc la barre de recherche devient de plus en plus un chatbot, une interface conversationnelle. Quand tu as sur les résultats, tu auras une fenêtre où tu peux poser des questions par rapport aux résultats. Donc voilà.
Ouais, mais ça, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas chez nous.
Pas en France, encore.
Bah parce que je vous rappelle que le search AI, le AI overview, il n'est pas sur Google en France.
Non, il n'est pas encore en France. Mais en tout cas, voilà, ils essayent. Et juste pour. Et sur la question de la rentabilité, c'est une vraie question qui se pose. On parlera de Meta tout à l'heure. Je pense que c'est encore pire. Sur Google, il y a une question qui se pose aussi. C'est ce que vont devenir les recettes publicitaires. Aujourd'hui, les recettes publicitaires de Google, c'est je clique sur un lien, un annonceur a payé pour que le lien soit là, et Google prend de l'argent. Si demain, on ne clique plus sur des liens, comment ils vont gagner de l'argent Google? Alors pour l'instant, il n'y a pas de problème, parce que les recettes publicitaires continuent d'augmenter, le nombre de requêtes continue d'augmenter, assez paradoxalement, ils disent que le nombre de requêtes sur Google augmente, malgré l'IA. Mais bientôt, peut-être qu'un jour, quand il y aura des agents, en plus ils ont lancé des agents de recherche, parce que vous avez vu ça aussi, où tu peux dire, je suis intéressé par tel truc, et ils vont chercher des agents à chaque fois, et puis ils vont t'envoyer des notifications quand il y a de l'info sur ce sujet.
Ça serait une bonne question à poser à Sundar Pichai. Comment il voit, en fait, le pivot de son business model?
Non, mais pour l'instant, il ne répond pas, en tout cas.
C'est le même business chez Meta, la pub, en fait, tout ça, tout le monde, on est captif. De toute façon, quand c'est gratuit, c'est nous le produit.
Ouais, mais chez Meta, c'est différent parce que la pub.
La pub elle est dans ton fil d'Insta, etc. Tu vois.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le principe même de campagne Google ou Meta, même si elles sont pas tout à fait les mêmes, c'est la même philosophie, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, ils ont repris la main sur le search en faisant ce qu'ils ont fait, parce que là, ils étaient.
Dernière chose, alors qui passe presque inaperçu par rapport à ce flot d'annonces, c'est les lunettes connectées Google, Samsung. Pourtant, on adore ça, hein, on est geek au possible, il nous tarde de les tester. Mais finalement, voilà, il n'y a rien de vraiment original, quoi. Google va sortir ses lunettes connectées, un peu la Ray-Ban Meta.
C'est ce qui leur manquait peut-être il y a 13 ans quand ils ont fait les Google Glass, parce que c'était des lunettes, déjà, sans verre. Donc ça n'était pas terrible.
Ouais.
Et c'était peut-être un peu trop avant-gardiste. C'est peut-être plus pour le B2B, je pense, pour les médecins et autres.
Non, mais c'était,
c'était un HD.
Non, il fallait avoir un œil directeur droit parce que tu n'avais l'écran que dans l'œil droit, ce qui posait problème. Moi qui suis œil directeur gauche, d'ailleurs. Premier test, je leur ai dit, c'est des mecs droitiers.
Je vois rien.
Non, mais tu peux pas faire le point.
Ouais, tu peux pas faire le point.
Donc, t'avais ça. Mais c'était juste pour avoir des infos supplémentaires dans ton champ de vision et il n'y avait pas d'intelligence derrière. Il y avait. Voilà. Donc, mais ça promettait, ça donnait des idées de SF. Après, c'était beaucoup trop anticipé. Mais comme tout, du casque Apple à. Pour l'instant, on n'a encore rien eu de concret. Là, bon, ça évolue. Avec l'IA, est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de l'écran? Il y en a beaucoup qui pensent ça. Moi, je pense qu'on n'est pas encore prêt, mais en tout cas, ça peut simplifier les choses.
Deux modèles qui vont sortir. Alors, le premier en octobre prochain, qui
on n'a pas la date encore.
Ouais, à l'automne. S'il n'y a pas de retard, et puis est-ce que ça sortira en même temps en France que aux États-Unis, j'en doute fort. Mais bon, en tous les cas, premier modèle qui sera simple, c'est-à-dire lunettes avec micro, haut-parleur et caméra. Et puis après, un deuxième modèle un petit peu plus tard avec là des écrans intégrés.
En fait, c'est plusieurs modèles. En fait, il y en a deux qui ont été annoncés, mais il y aura potentiellement d'autres modèles.
Oui.
Ils sont assez ouverts. Et donc, oui, il y a un modèle avec l'écran. Meta a annoncé aussi un modèle avec écran. Mais on est encore loin des lunettes de réalité augmentée qu'on a dans la science-fiction. Donc, ça reste encore assez sommaire, j'ai envie de dire.
Oui.
Mais c'est vrai que ça a évolué assez rapidement. Le fait qu'on ne parle pas trop, je pense, des lunettes aujourd'hui, alors déjà parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, et après, c'est parce que finalement, ils ont un peu copié ce qu'a fait Meta. Il n'y a pas grand-chose de différence. Oui. La seule différence, c'est que tu as Gemini au lieu d'avoir Meta AI, et puis tu as des choses comme ça. Mais sinon, après, il n'y a rien de très révolutionnaire. Donc, on verra. Je pense que là où ils seront vraiment attendus, c'est sur les vraies lunettes de réalité augmentée. Donc là, on a encore du temps.
Ouais.
Encore des années à attendre.
Et puis dernière chose, étant donné que Essilor Luxottica est complètement verrouillé avec Meta, Essilor Luxottica, c'est vraiment toutes les grandes marques de lunettiers. Et là, le souci, c'est qu'il reste que les miettes finalement pour Google. Et ils ont passé un accord avec deux lunettiers, un coréen, un américain, mais qui n'ont pas l'aura, on va dire, et la touche stylistique d'un Essilor Luxottica qui a les Ray-Ban, mais qui a aussi Prada, etc.
Sur le marché européen et américain, parce que quand tu vas en Asie, t'as les autres lunettiers qui fonctionnent bien et tout. Ouais. Je peux t'assurer que la qualité des verres est vraiment pas...
Ouais, c'est clair.
Donc bon, à voir. Les marchés, ils vont attaquer.
Dans l'actualité aussi, cette bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes en Corée du Sud, une grève d'ampleur a finalement été évitée de peu chez Samsung Electronics, on en parlait lundi dernier. Suspendu jusqu'à nouvel ordre, le syndicat principal à l'origine de l'appel à la grève soumettra au vote de ses membres un accord salarial provisoire. Clarisse Marion nous raconte cette histoire et on revient juste après, bien sûr.
L'accord a été trouvé à la dernière minute. Ce matin encore, les salariés prévoyaient de débriller. Le ministre du Travail s'est félicité que les deux parties aient tenu bon le fil du dialogue jusqu'au tout dernier moment. On ne connaît pas les contours de l'accord négocié entre les syndicats et le patronat chez Samsung. Les représentants du personnel réclamaient notamment une hausse de salaire de 7%, alors que le boom de l'IA profite aux fabricants de puces mémoire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'économie coréenne, puisque Séoul estimait que la grève aurait pu raboter de 0,5% la croissance annuelle du PIB du pays. Samsung produit à lui seul près d'un quart des mémoires à large bande passante utilisées pour les serveurs d'intelligence artificielle. Une grève aurait fait chuter la production mondiale de puces et provoqué une flambée des prix des semi-conducteurs.
Voilà, alors on se rend pas compte des enjeux qu'il y avait derrière tout ça. On en a un petit peu parlé lundi, mais ils étaient énormes, Jérôme.
Ouais. C'est des milliards de dollars. Hein. Juste pour donner un ordre d'idée, Samsung, au premier trimestre, ils ont fait la branche puce de Samsung a fait 40 milliards de dollars de bénéfices. Donc, on peut dire 200 milliards sur l'année, en gros, avec comment ça va. Ils ont récupéré 12% les employés. Donc, ça fait quasiment 25 milliards d'euros qui vont tomber dans les poches des employés. Il y a 40 000 employés. Donc, ça fait à peu près entre 500 et 600 000 euros par employé par an.
Pas mal. On comprend pourquoi ils ne voulaient pas lâcher le bout, hein, les gars, hein, quand même. Oui. Mais bon. Est-ce que c'est mérité? Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que c'est toujours compliqué, mais on voit, chez Apple, les salariés sont intéressés aux résultats. Amazon...
Mais pas autant, quand même.
Pas autant, pas autant, c'est
là,
clair.
Là, en fait, il y a une chose importante, c'est que c'est les employés qui fabriquent les puces. Déjà, il y a une demande énorme pour les puces.
Oui, bien sûr.
C'est devenu un composant stratégique, donc des puces mémoire que fabrique Samsung. Et surtout, ces employés, on peut pas les remplacer facilement. C'est des employés qui sont très qualifiés. C'est fabriquer une puce, c'est pas facile. Donc, on va pas aller délocaliser la production ailleurs. Et donc, ils ont un pouvoir finalement assez important par rapport au patron, en fait, par rapport à leur entreprise. Donc, et puis en plus, il y a l'État coréen qui s'en est mêlé, qui, je pense, a aussi poussé Samsung à trouver un accord. Donc, il y a pas mal de choses qui fait qu'ils étaient en position de force pour négocier un accord.
Mais faut se rendre compte que c'est exceptionnel. En Asie, il y a pas de grève, quoi. Là, on est en France.
Après,
nous, la grève, c'est un truc.
En Corée, ils ont des mouvements syndicaux un peu plus.
Différents, mais c'est quand même des pays.
Bon, un petit peu plus qu'en Corée du Nord, quoi, par exemple.
Mais c'est quand même des pays où, si tu veux, la culture du travail est très différente, on accepte beaucoup de choses.
Oui, il y a une discipline militaire, on va dire.
Voilà, et dès l'enfance, etc. Et puis surtout, cette boîte, comme tu dis, je crois que c'est 10% du PIB, en fait. Hein, donc, bien sûr que le gouvernement va s'en mêler. Et surtout, ça a un impact mondial. Mmh. C'est-à-dire que juste une boîte représente quand même un risque pour... toute la technologie mondiale. Et ça pose problème. Parce que c'est pas que les téléphones, comme tu dis, c'était les mémoires, mais c'est la DRAM, le NAND, les écrans, le packaging. C'est beaucoup, beaucoup de choses, en fait, Samsung, et on oublie ça.
En fait, ils ont fait le coup des cheminots de la SNCF qui se mettent en grève juste avant un grand départ en vacances. Ouais. C'est un peu ça. Là,
le contexte
est tel que finalement, Samsung était obligé de trouver un terrain d'entente.
Non, mais pendant des années, on a pensé que l'IA remplacerait les humains, mais en fait, là, c'est ironique. C'est les humains qui peuvent paralyser complètement le marché de l'IA, et à juste titre, quand on entend ces chiffres-là, on peut comprendre, parce qu'il faut imaginer aussi, ils voient des choses passer, ils voient des chiffres, et ils ont peut-être envie aussi d'avoir une forme de reconnaissance, c'est aussi...
Pour l'instant, ils ne peuvent pas être remplacés, mais avec les projets en robotique en IA, ça va peut-être pousser du coup leur patron à essayer de les remplacer.
Ah, mais ils ont peur d'un effet domino.
Ouais. Vous voulez 500 000 euros? Ok, je vais faire mes 45 000 chèques de 500 000 euros, mais vous allez voir.
Mais dans deux ans, salut.
Alors, peut-être pas deux, mais
ça va vite, hein, ça va vite.
C'est clair, mais ça prouve aussi la toute-puissance de Samsung, quand même, dans ce domaine-là, parce que Samsung fait quoi? Fait de la mémoire, je crois. Et la mémoire de très très haute qualité qui est à une vitesse ultra rapide, ce dont a besoin notamment Nvidia, mais beaucoup d'autres. Apple.
Ils ont doublé le prix des mémoires en février dernier pour l'iPhone 17. Apple a même pas sourcillé, je crois, ils ont compris, c'est pas possible autrement.
Oui, et puis en plus, Apple, je pense, ça doit avoir des contrats un peu privilégiés, non? D'après ce que j'ai compris, ils achètent en fait les mémoires sur plusieurs années.
Ils achètent à l'avance. En fait, aujourd'hui,
donc en fait, ils bloquent les prix, si tu veux. Tu sais, c'est un peu comme le pétrole ou ces choses-là. Hein.
Ouais, c'est pas pour les billets d'avion, on n'a pas ça, nous.
Non.
Bizarrement.
Non.
Mais là, aujourd'hui, juste pour donner un ordre d'idée, le carnet de commandes de 2026, il est rempli déjà, que ce soit chez Samsung ou chez SK Hynix, qui est le
concurrent.
Le concurrent sud-coréen, qui est d'ailleurs même leader sur ses mémoires HBM.
Et qui, lui, récompense ses salariés.
Avec 450 000 euros, je crois, quelque chose comme ça.
C'est ça. Et c'est ça aussi qui a poussé les salariés de Samsung à monter au créneau.
Et donc, 2026, c'est plein. Et là, déjà, ils commencent à réserver pour 2027. Et ce qu'ils disaient, des choses intéressantes, c'était Samsung ou SK Hynix qui disait ça. Ils disaient, les clients, ils négocient même pas les prix, en fait. Et on leur dit, voilà, c'est tel prix, et ils prennent parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a tellement...
Parce que s'ils disent non, il y a quelqu'un d'autre qui les prendra.
Exactement. Et là où c'était un peu, où ça a des effets un peu pervers, c'est qu'il y a la puce mémoire, donc à la limite c'est l'IA, mais c'est toutes les autres puces aussi. Donc les puces de DRAM et NAND, qui sont des puces qu'on a dans les téléphones, dans les PC, qui augmentent de prix, qui augmentent de 50% tous les trimestres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le prochain iPhone, par exemple, est-ce qu'on pourra l'avoir à un prix que de précédents iPhones ou même les ordinateurs, le marché, ça c'est c'est même impossible à savoir parce que ça augmente tellement le coût des drames, par exemple, et des Nantes sur un smartphone. Aujourd'hui, ça va représenter 40% du coût au lieu de 20%. Donc, c'est une énorme différence. Et ce qui va commencer à impacter au-delà de l'IA.
Non, et tu vas voir que dans l'IA, ça va être encore pire. Parce que là, tu disais, les prix sont bloqués avec des carnets de commandes. Non, c'est que là, même si tu as fait des commandes, tu avais beau être dans la liste d'attente et avoir ton truc, il y a quelqu'un qui surenchérit et il va commencer à avoir des bagarres.
C'est le seul petit nuage, en fait, dans le ciel de Jensen Huang, ça, finalement. Parce qu'ici, il est obligé d'acheter donc ses puces au prix fort, sans doute.
Après, il les revend plus.
Après, il les revend plus cher. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de on va dire, de tarif plafond, si tu veux, tu vois. Mais bon.
Je ne crois pas. Non.
On arrête là. Ouais. Allez, il est 19h57. On va faire une petite pause et on revient pour la deuxième partie de ce Tech & Co, la quotidienne. Merci d'être là, toujours avec Fanny, avec Stéphane et avec Jérôme. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Il est 20h pile en ce mercredi soir. Merci d'être avec nous sur BFM Business. C'est Tech & Co, la quotidienne, jusqu'à 21h. Et pendant encore une demi-heure, on va débriefer de l'actu tech du jour. Vous allez voir, elle est très dense. Toujours Fanny Bouton qui est avec nous, directrice quantique chez OVH Cloud. À tes côtés, Fanny, c'est Stéphane Zibi, consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Et puis Jérôme Marin, donc fondateur de cafetech.fr. Et on va repartir avec cette initiative d'Iliad qui réunit 28 acteurs français au sein d'un consortium autour d'un projet de Gigafactory dédié à l'intelligence artificielle en Europe. Un projet stratégique porté par l'ambition de renforcer la souveraineté technologique européenne et de développer des infrastructures capables de rivaliser avec les géants américains et chinois de l'IA. Valentine Abdi nous explique tout ça et puis après, bien sûr, on réagit.
Avec Bulle pour les supercalculateurs et les microprocesseurs, Scaleway, filiale d'Iliad pour le cloud, Artefact et Capgemini pour l'industrialisation de l'IA, Ardian pour l'investissement et EDF pour l'énergie, ce projet rassemble l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. La France met en avant tous ses atouts pour accueillir cette future AI Gigafactory. Pour l'instant, seulement 5% des capacités de calcul liées à l'intelligence artificielle se trouvent sur le sol européen, un retard que le projet veut combler, souligne Thomas Reynaud, PDG d'Iliad.
On parle d'une puissance de calcul exprimée en mégawatts qui devrait être entre 100 mégawatts et 1 gigawatt et c'est un investissement cumulé supérieur à 10 milliards d'euros.
Iliad prévoit à lui seul 4 milliards d'euros d'investissement. Les acteurs du consortium se sont d'ores et déjà engagés à être des clients de la Gigafactory. Mais le projet compte également sur la commande publique pour être rentable. Cela pourrait représenter jusqu'à 35% des commandes via un appel d'offres lancé prochainement par l'Union européenne. Le consortium ne ferme pas la porte à d'autres acteurs. On pense notamment aux champions français de l'intelligence artificielle, Mistral AI.
En tout cas, belle brochette de pépites françaises, hein, un peu dans tous les domaines, avec donc comme objectif de créer cette Gigafactory qui nous redonnerait un petit peu de on va dire d'autonomie, de souveraineté dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors tout reste à construire, hein, bien sûr. Sur le papier, ça a l'air très séduisant. Est-ce qu'on a des dates d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des échéances qui ont été
non
posées?
En fait, ce qu'il faut quand même préciser,
moi, c'est ce qui m'inquiète en général quand on parle d'un truc et qu'il n'y a pas un calendrier derrière.
En fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, c'est pas le projet, il existe, mais il est pas sûr qu'il va se finaliser, parce que c'est juste un projet pour participer à un appel d'offres que va mettre en place la Commission européenne avec des financements ou en tout cas avec un engagement de commande publique. Donc le projet en tant que tel, il est dépendant du calendrier de la Commission européenne.
D'accord.
Et en tout cas, la Commission européenne prend du temps. C'était annoncé l'an dernier et on ne sait pas vraiment où ça en est. Donc,
si la Commission européenne ne laisse tomber ce projet-là...
A priori, ils ne vont pas le laisser tomber parce qu'il y a une enveloppe de 20 milliards qui a été débloquée. Mais il y a une question de créer l'appel d'offres et notamment de négocier avec les États aussi parce que donc il y a 20 milliards pour 5 gigafactories, 4 à 5 gigafactories en Europe. Et donc, il faut savoir quel pays aussi. Donc, il y a aussi toute une négociation entre les pays. Voilà. Donc, il y aura un appel d'offres qui sera lancé. Une fois que l'appel d'offres s'est lancé, si Scaleway ou si un autre acteur remporte cet appel d'offres, il pourra commencer le projet. Donc, ça prendra plusieurs années. Et c'est forcément, on parle de 2027, probablement 2028 même. Donc, ça prend du temps, exactement.
Oui, 2027, tu es un peu optimiste.
Oui.
Enfin, oui, en tout cas, le déblocage et qu'on sache quels sont.
Je pense que l'appel d'offres sera probablement cette année.
Oui.
On ne sait pas si on aura les résultats cette année, mais a priori, je pense que la Commission européenne va essayer que ce soit fait cette année, en tout cas.
Voilà. Alors, beaucoup de d'acteurs importants. Pas d'OVH.
Non, pas d'OVH Cloud dans celui-là, de consortium. Après, des projets de Gigafactory et la façon de le penser différente, en tout cas. Un projet qui est plus européen, avec au moins 6 pays. Et surtout, pas forcément penser que subvention, mais aussi rentabilité. Donc, c'est pas faire des cathédrales de GPU, mais plutôt avoir des GPU raisonnés avec des usages qui vont servir aux clients.
Je te pose la question parce que évidemment tu représentes OVH Cloud. Donc il y a d'autres projets en fait de Gigafactory.
Il y a des projets de Gigafactory, mais pensés oui différemment.
Mais pas dans le cas de cet appel d'offres en tout cas.
Non, pas dans celui-là en effet. Mais il y a d'autres, il y en a d'autres comme.
Est-ce qu'il y a des projets concurrents européens?
Oui, ah oui.
Oui, oui.
Ah bah oui, dans chaque pays.
Dans chaque pays. Ah oui, d'accord.
J'ai vu en Allemagne, en Espagne et au Portugal, j'en ai noté un dans chaque
parce que
pays, en tout cas.
Tu parlais de 20 milliards, l'enveloppe, là, il y a déjà 10 qui partent.
Non, 20 milliards, c'est l'enveloppe que va débloquer Bruxelles. Sur cette enveloppe, il y aura 3 à 4 milliards par projet.
Ah oui, d'accord. Et après, voilà. Il y a des investissements privés, etc. Bien il y a sûr. Les oui. États qui rajoutent de l'argent.
Là, a priori, il n'y a pas d'État d'investissement public.
Non.
Là, il y aura donc les 10 milliards, ça sera l'investissement. Et encore, franchement, 10 milliards, je pense que si on veut faire 1 gigawatt, on est beaucoup plus que 10 milliards. Ouais. Donc 10 milliards, c'est vraiment la première phase du projet. Ce qu'apporterait Bruxelles, c'est un engagement de commande publique. L'État français s'engagerait à dire, on va vous acheter pour 3, 4 milliards de puissance de calcul. Et donc, ça vous permet d'avoir quelque chose pour lancer la machine, en fait. De dire, on va faire ce projet, on a déjà un engagement de 4 milliards ou de 3 milliards qui est déjà là.
Ils ont beaucoup insisté sur ça, sur l'appel d'offres, la commande publique. Ça ne dépend pas de nous, mais en fait, déjà, on est prêt ou on se donne les moyens d'être prêt. Et c'est vrai que là, le fait qu'ils aient EDF pour la puissance électrique...
C'est quand même un atout que
les autres consortiums européens n'ont peut-être pas obligatoirement dans leur mode, parce que j'ai regardé un peu la composition, parce qu'en Espagne, par exemple, c'est Telefonica plus ACS, en Allemagne, c'est Deutsche Telekom et Brookfield, et au Portugal, c'est Altice et NOS. Donc voilà, donc en gros, il n'y a pas l'équivalent, ce que je voulais dire ça pour ça. Et c'est vrai que, moi j'écoutais, il y a eu beaucoup de questions, ce matin, c'est quand même, on était à la même conf de presse, donc on a pu voir, il y avait beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, et en fait, on avait toujours la même chose. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, quand même, il y a une expression qu'ils ont dit, on crée une usine à token. J'ai trouvé cette expression intéressante, parce que c'est un peu l'état d'esprit, et ça, par contre, ça, au niveau marketing, par le coup, c'est plutôt intéressant. Après, maintenant, il faut que ça soit la réalité suive derrière.
Non, mais c'est très très bien, et en effet, comme on l'a dit, c'est l'électricité, c'est un des points forts de la France pour être sélectionné.
L'électricité décarbonée en plus.
Voilà, parce que quand on a plusieurs projets européens, évidemment, il y en aura peut-être que deux ou trois sur 6 ou 8 qui vont être présentés, qui seront sélectionnés, et c'est un des gros avantages. Et en effet, on a des beaux acteurs dans ce consortium. Après, en effet, c'est à quelle vitesse 10 milliards, c'est bien, mais quand on voit ce qui est injecté aux États-Unis ou en Chine sur ces sujets-là, c'est pas grand-chose en fait. Donc c'est bien, ça va permettre d'avoir des acteurs souverains, mais jusqu'où on va aller et comment on le rentabilise et comment on va pouvoir le maintenir aussi, parce que tous ces GPU, ils se consomment, ils s'usent très vite et il faut pouvoir rester dans la course.
Est-ce que c'est pertinent, à votre avis?
C'est mieux que rien. Actuellement, c'est mieux que rien. On a perdu beaucoup de courses de la technologie.
Non, mais alors, pour la souveraineté, je suis un peu polémique, mais à quoi ça va servir? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises françaises qui vont préférer... utiliser cette puissance européenne. GPU européenne.
Des entreprises européennes, parce que c'est pas que la France qui va consommer.
Non, bien sûr, c'est toute l'Europe, bien sûr, mais ils préféreront aller là que aux États-Unis ou je sais pas où.
Plutôt que d'aller chez Google ou Amazon ou Microsoft. Après,
mais est-ce qu'il y aura le même savoir-faire? C'était ça ma deuxième question, tu vois.
Après ça, on verra. Mais
à l'usage.
On verra. Après, c'est sûr que c'est.
Parce que c'est bien beau d'avoir de la puissance de GPU, mais après il faut toutes les couches, sauf les API, etc. Non,
je crois qu'on est en train de se rendre compte que si tu veux le futur, c'est pas, je sais pas, justement le software, c'est pas le logiciel, c'est aussi le hardware. Et ce qu'il y a en dessous, la couche d'en dessous, là actuellement, il faut qu'en Europe, on ait ça de nouveau. Donc ça, c'est vachement bien qu'on y aille. Après, est-ce qu'on va savoir faire? Oui, on sait faire des puces. Après, là, il va falloir quand même qu'on en achète les bons GPU à l'étranger, mais pour les mettre dedans. Mais en tout cas, Mais faire un data center et faire ce qu'il faut, on doit pouvoir le faire. C'est combien on va mettre et est-ce que ça suffira pour contenter tout le monde? Et tu posais une autre question, est-ce que les entreprises européennes vont consommer? Je peux t'assurer que depuis ce qui se passe géopolitiquement, les commandes augmentent chez les cloud providers européens et il y a un vrai sujet de souveraineté, pas que dans des entreprises privées. C'est aussi, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'un des meilleurs VRP est le président américain actuellement. Il aide à la vente.
Ce que disait Octave Klaba la dernière fois au VH Summit d'ailleurs.
Il l'a dit, moi. Oui.
C'est vrai qu'on a eu pas mal de breaking news dans la tech cette semaine. La dernière en date, elle vient de tomber. Dépêche AFP, OpenAI, il va déposer son dossier d'entrée en bourse dans les prochains jours.
Ouais, bon, alors c'est une rumeur encore.
Voilà. En tout cas, ça vient d'arriver. Mm-hmm. Et c'est des médias américains qui remontent l'information avec peut-être le signe d'une possible accélération de son calendrier d'introduction.
Après, ils vont déposer le dossier de manière confidentielle. Aux États-Unis, on peut déposer un dossier de manière confidentielle.
Ce qu'a fait déjà SpaceX.
Ce qui fait qu'en fait, on peut ouvrir la procédure. On peut commencer à faire tous les documents sans que ça débouche forcément. Ouais. On sait qu'il y a un gros débat interne aujourd'hui chez OpenAI entre Sam Altman qui veut aller en bourse le plus rapidement possible et la directrice financière Sarah Friar qui, elle, dit au contraire, non, on perd trop d'argent, il y a beaucoup de questions sur OpenAI, sur comment ils vont gagner de l'argent. Elle préférait qu'on repousse en 2027. A priori, ce qu'aimerait Sam Altman, c'est arriver avant Anthropic. Parce qu'il se dit, il y aura une prime au premier.
Oui, au premier, bien
sûr. Le premier qui va arriver, c'est lui qui va peut-être décrocher le plus. Alors, c'est pour ça que SpaceX aussi a accéléré son calendrier pour être le premier, parce que maintenant, SpaceX, c'est aussi XAI, donc c'est aussi l'IA. Et donc, il y a une course un peu de vitesse. Donc, à voir s'ils y vont. Après, il faudra voir aussi si les investisseurs veulent mettre à 1500 milliards de dollars de valorisation ou pas. Donc, voilà.
Bon, écoutez, en tout cas, ça vient de tomber. On verra si tout se confirme dans les jours ou les semaines qui viennent. Dans l'actualité aussi, il y a cette info assez intéressante concernant Meta et notamment WhatsApp. Vous l'avez peut-être remarqué, mais WhatsApp s'est ouvert à l'IA depuis quelques mois. C'est-à-dire que vous avez sur votre interface WhatsApp ce petit bouton dont personne ne se sert. Enfin, moi, je sais pas si vous en servez.
Voilà, moi, je l'ai mis en archive. Attends.
C'est mauvais signe, ça. Bah, si Marc Zuckerberg nous écoute, il va pas être content, hein, Stéphane.
Non, faut mettre les ex et Meta AI en archive, oui.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ce petit bouton qui vous permettait, en fait, d'accéder à Meta AI, on sait pas trop pourquoi, et ça a été la volonté de Meta de mettre ce petit bouton multicolore à la fois sur, évidemment, Facebook, mais aussi Instagram. Et Messenger et donc WhatsApp. Le seul problème, c'est que l'Europe a vu ça arriver d'un mauvais œil en disant « Attendez, c'est bien beau votre système, mais il va falloir aussi que l'utilisateur puisse changer cette IA, ce petit bouton qui sert à rien, pour que par exemple on puisse mettre OpenAI, ChatGPT, ou bien Gemini, ou bien Claude. » Et visiblement, Meta n'a pas trop le choix et va être obligé d'ouvrir en quelque sorte son...
C'est le DMA, hein.
C'est le DMA. Non, c'est pas le DMA pour le coup.
C'est pas le DMA là-dessus.
C'est quoi?
Alors c'est là, on est plus. Alors pour l'instant, en tout cas, c'est pas lancé dans la procédure dans le cas du DMA. Bah, si. Juste pour préciser, c'est pas forcément le petit bouton. C'est le fait qu'avant, tu pouvais conversationner
ça fait très grosse conversation, quoi.
Mais tu pouvais parler avec d'autres chatbots. Et ils ont coupé l'accès en début d'année. Donc c'est là, une fois qu'ils ont coupé l'accès, l'autorité de la concurrence italienne, qui a été la première à réagir, a dit attention, ça c'est anticoncurrentiel. Bruxelles a dit également que c'est anticoncurrentiel. C'est pas encore forcément dans le cas du DMA, même si le DMA devrait s'appliquer. Mais bon, juste, et donc, en fait, Bruxelles a lancé une procédure, et Meta, généralement, ce n'est pas des gens qui aiment vraiment coopérer, mais là, pour le coup, ils veulent coopérer parce que...
Il n'y en a pas beaucoup qui aiment coopérer. Apple, ouais, mais eux, ils font ça vraiment...
Apple et Meta, c'est quand même les pires, je pense.
Ouais, ouais.
Et là, ils commencent à dire pourquoi pas, parce qu'en tout cas, de manière temporaire, en attendant de trouver une solution, de laisser... la possibilité d'avoir d'autres chatbots, mais ça ne serait pas gratuit. C'est-à-dire que...
Alors, au début, ce serait gratuit.
Ça serait gratuit, et au bout d'un moment, quand tu auras atteint un certain nombre de messages, le chatbot devra payer Meta.
Alors c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que j'ai mal compris? C'est-à-dire que c'est, par exemple, avoir, et c'était le cas au début de ChatGPT, mm-hmm. on pouvait avoir ChatGPT dans WhatsApp.
Exactement.
D'accord. Meta a dit stop, ça suffit. Donc c'est ça qui va revenir. Le petit bouton...
Oui, il lui restera...
Il restera Meta AI. On ne pourra pas le transformer...
Après, peut-être que dans le cadre du DMA, un jour, on dira
DMA,
ce petit bouton.
Ils sont obligés de l'appliquer, parce qu'en fait, quand vous paramétrez un iPhone, là, ou je ne sais quoi...
Le coup double. Hein.
Paramétrez le moteur par défaut, le navigateur par défaut.
Maintenant, oui.
Oui, mais non, voilà, c'est obligé, c'est ça le DMA, c'est qu'on est obligé de paramétrer les trucs. On a le choix. on laisse le choix à la personne, même si on va mettre Safari ou Google à chaque fois au moteur, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est, picousé comme ça. C'était juste ça, c'est qu'en fait, je crois que c'est dans l'application, dans la continuité. Après, je sais peut-être que l'origine, j'avais pas l'information, et tu me l'as appris tout à l'heure par rapport à l'Italie, mais en fait, ils sont obligés de toute façon la forteresse, ils sont obligés de la de petit à petit, c'est comme iMessage et les messages RCS, de toute façon à un moment ils sont obligés de laisser tomber la forteresse. Par contre, ils ont mis un péage devant, j'ai vu les tarifs, c'était 0,049 centimes et 0,13 centimes par message, ça va coûter une fortune. En fait, les mecs, ils vont se refaire.
Ouais, mais là encore, l'Europe va tomber dessus en disant c'est pas possible. Ça me fait penser à l'abonnement que Meta avait dégainé concernant Insta, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ne pas avoir de la pub, parce que l'Europe voulait qu'il y ait une formule sans publicité, et Meta, pour être dissuasif, avait mis un abonnement au départ à 15 euros ou 20 euros, et puis après, petit à petit, il avait baissé parce que...
8 euros aujourd'hui.
C'est 8 euros, parce que... Mais au départ, c'était beaucoup plus cher, parce que c'est tombé à 8, parce que justement, l'Europe a dit, attendez, 15 euros, c'est pas possible. Donc on voit qu'il y a... C'est que le début des négociations.
Mais en même temps, ça bloque des trucs que peu de gens utilisent, si tu veux. Ce serait, je pense que c'est presque transparent et qu'ils sont peut-être un peu tendre le bras.
Ouais, mais enfin, bon, WhatsApp sur... Enfin, ChatGPT sur WhatsApp, ou Claude sur WhatsApp, ou Gemini sur WhatsApp, ça peut peut-être aussi être une nouvelle manière de converser avec ces IA, non ?
Bien sûr.
Enfin,
Et je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec Siri, en fait, quand ils vont relancer le Siri.
Oui.
Parce que Siri, a priori, ça sera Gemini, un peu de God d'Apple, mais Siri, alors on est encore plus dans le cas du DMA, parce que Siri, c'est vraiment dans iOS, dans certains...
Exactement.
Et c'est logiquement dans le DMA, il faut que ce soit interopérable avec les autres solutions. Alors, est-ce que Siri sera considéré comme dans le DMA ou pas ? Mais ça sera intéressant de voir ce qui va se passer là dans les prochains mois, quand le nouveau Siri arrivera, en tout cas.
Mais je pense qu'à terme, on pourra choisir son IA dans Siri.
Probablement.
Un peu comme aujourd'hui, quand vous allumez votre smartphone, vous choisissez votre navigateur, vous choisissez votre moteur de recherche.
Oui, ça va devenir des super apps, en fait.
Voilà, vous voulez quoi ? Vous voulez l'intelligence de Gemini, vous voulez ChatGPT, etc.
Pour Siri, il faudra quand même un petit peu de dev, je crois que c'est pour ça que là, ils sont mis Gemini. Mais bon...
Ouais. Oui, mais tant que c'est transparent, pour ça va peut-être enchaîner différents types d'IA derrière.
C'est début
ça transparent
juin,
pour le client.
En début juin. On verra
ben voilà, direct. Donc ça bouge du côté de chez WhatsApp et on voit que l'Europe suit tout ça de près. Toujours dans l'actualité du côté de chez Meta, vous l'avez sans doute lu ou entendu, mais là ça s'accélère. On en avait déjà parlé dans Tech & Co il y a plusieurs semaines de cela. Ça y est, c'est le coup d'envoi des licenciements massifs qui arrivent chez Meta. On parle de 7000 employés.
8000.
Pardon ?
8000.
Alors,
il y a 8000 plus 7000.
Alors voilà, c'est ça. Il y a 7000 employés qui vont changer de job et qui vont être réattribués
en IA.
En fait, à l'IA et 8000 licenciements secs.
Non, en fait, il y en a 15 000 qui ont reçu un mail ce matin. Bon. C'est pas très cool pour ça. Il y en a 8 000.
Ça fait une sacrée DL, hein, ça.
Voilà. Il y en a 8 000, c'est ciao. Et 7 000, c'est, ils vont travailler sur l'IA. C'est tout ça, peut-être pour financer des GPU ou pour, malheureusement pour eux, valider une stratégie qui a pas marché, jusqu'à même changer de nom de la compagnie, d'aller vers les métaverses. Je pense que, voilà, c'est...
Contenter les investisseurs.
Peut-être aussi, mais c'est dingue, en fait.
Pour qu'on ait une idée, en fait, de l'effectif de Meta, on est à quasiment 80 000 employés. Donc, mine de rien...
10%,
bon, alors,
plus que 10... Ah non,
8 000, ça fait 10%.
10%,
exactement. Oui, mais 7 000 que tu veux, ça fait quasiment 20%, quoi. C'est 18% qui sont soit bougés, soit recadrés, quand même.
Rappelez qu'en 2023, ils ont licencié 20 000 personnes.
C'est ça.
Donc,
c'est fou, quand même. Hein.
Ils avaient réembauché un peu, mais du coup, on va retourner dans des
on avait parlé à l'époque sur un précédent plateau ici, des sommes folles qui dépensaient pour trouver les mecs derrière, et ils avaient un peu stoppé un peu tout ça, ils ont dit ouais, on va attendre un petit peu, et là ben voilà, regardez ce qui est en train de se passer. Non, je trouve ça dingue, moi, personnellement. Et en fait, c'est pas les seuls à faire des économies, malheureusement, à travers les employés, quoi. Et je crois qu'il y a d'autres exemples, il me semble.
Bien sûr, il y a Cisco qui est récemment, il y a Oracle, il a fait Microsoft,
Est-ce que c'est
Amazon.
Des économies, ou est-ce que c'est finalement le monde qui change, en tout cas le monde de la tech, la manière dont on se sert du talent des gens, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que l'IA bouscule quand même pas mal de métiers, surtout dans des boîtes de tech comme ça, non ? Enfin, Fanny, toi, tu bosses dans ce type de boîte.
C'est pas forcément que ce que je vois chez OVH Cloud, mais plutôt sur tout le marché, même des startups que je vois grandir depuis 20 ans. Et il y a un moment où, en fait, tu fais des grosses levées de fonds et on te dit, il faut embaucher. Et donc, t'embauches. Et des fois, tu te retrouves avec des équipes doublons sur des projets. Tu te retrouves avec des gens qui font moitié moins de boulot parce qu'il y a trop de monde sur un projet. Et tant que tu as l'argent et que tu peux aussi maintenir des talents qui ne vont pas aller à la concurrence, tu le fais. Et puis, il y a un moment où il faut réoptimiser tout ça et shifter. Et là, le monde change très, très vite. Et donc, on se dit, là, il y a tant de salariés, ils ne sont vraiment plus assez utiles, sûrement, pour et où il faut faire des coûts. Et donc, je pense que c'est des stratégies comme ça. C'est toutes les boîtes de la tech que je connais qui ont grandi très, très vite ont surembauché à des moments pour ça. Soit avoir beaucoup de talent, soit empêcher que les talents soient à côté. Mmh. Et à un moment, tu ne peux pas tout garder parce qu'il faut être aussi rentable et là, efficace.
Là, pour le coup, ils l'ont très bien dit, la directrice des ressources humaines, quand elle a annoncé ça en fin avril, elle a très bien dit dans son mémo interne, c'est pour compenser les investissements qu'on fait à côté. Donc, c'est très clairement aujourd'hui, l'idée, c'est clair,
c'est que... Meta, mais c'est du repli, en fait, c'est ça.
Alors, juste pour donner des chiffres, Meta, l'an dernier, le business de Meta, ça génère 70 milliards de dollars de cash. Ils ont dépensé 72 milliards en investissement. C'est-à-dire qu'ils ont tout l'argent qu'ils gagnent avec Meta, Instagram, WhatsApp, et pas dans les CPU, dans les GPU, dans les data centers. Cette année, ils vont investir jusqu'à 145 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez d'argent qui va arriver des activités pour financer ça. Donc, ils ont déjà levé 155 milliards de dollars d'obligations ces derniers mois. Donc, en fait, aujourd'hui, ils sont là, ils ont beaucoup de dépenses. Alors, ce n'est pas forcément des pertes, parce que les dépenses, on les amortit sur des années, mais ils ont beaucoup de dépenses. Ils ont des investisseurs qui commencent à se dire, mais attendez, c'est quoi toutes ces dépenses? C'est quoi le modèle économique de Meta dans l'IA?
Vers où vous allez?
Exactement. En fait, et donc, on va dire, on va donner un petit os à ronger aux investisseurs. On vire 8000 personnes, on remet 7000 personnes sous l'IA. Voilà. Donc, c'est aussi une question de perception de public, en fait.
Oui, c'est presque de la com, c'est
bien
ce que tu es en train de dire.
Et tout le monde le fait. Oracle a fait la même chose. Ils ont licencié entre 20 à 30 000 personnes parce qu'ils veulent investir beaucoup d'argent pour faire des data centers pour OpenAI. Microsoft le fait régulièrement. Amazon le fait régulièrement. Apple, Google, beaucoup moins, par contre. Oui. Ils n'ont pas la culture de licenciement. Exactement. Mais voilà, c'est le monde aujourd'hui où on est. Ce que je trouve assez rigolo, non pas rigolo, mais cocasse, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas licenciés parce que l'IA a pris leur travail. Ils sont licenciés pour qu'on achète des GPU pour de l'IA, en fait. Et donc, l'IA, il y a le double truc. Il y a un, tu es licencié parce que ton travail, il n'existe plus. Et deux, tu es licencié parce qu'il nous faut de l'argent pour investir dans l'IA.
Ça, c'est tous ces salariés paient aussi les égarements de Mark Zuckerberg sur certaines... on va dire technologies qui ont été des gouffres financiers. On ne va pas revenir sur le métavers. Enfin, des choses comme ça. Mais il a perdu des dizaines de milliards.
Oui, beaucoup. Mais sur le métavers, ils ont déjà licencié en début d'année. Ils ont déjà 5500 personnes qui travaillent sur le métavers en début d'année. Donc là, c'est vraiment...
C'est un enterrement non officiel, en fait.
Du métavers. Oui. Le métavers, il n'existe plus.
Oui, voilà. Oui, non officiel. Ils ne l'ont pas encore annoncé. Parce que quand même, ou alors ils vont changer de nom, ils vont s'appeler EI Company maintenant. Troisième nom en 10 ans, je ne sais pas.
Après, ça pose aussi des questions. C'est les grands groupes américains peuvent se permettre ce genre de choses, mm-hmm. D'envoyer un mail le matin pour virer les gens.
Mais en France,
là aussi, c'est une réactivité. Je ne prône pas ça du tout, je préfère le dire. Mais en tout cas, ça montre une rapidité de shift, de pouvoir faire évoluer des sociétés qu'on n'a pas en France et en Europe, et qui des fois sont beaucoup plus longues à pouvoir réagir et à s'adapter.
Ils ont quand même licencié un tiers du bureau en Irlande, là, donc ils sont...
Ah oui,
parce que c'est des commerces.
Oui, mais parce que
c'est simples commerces.
C'est pas les mêmes lois qu'en France.
Oui, bien sûr.
Tu feras pas ça ici de la même façon.
Ça prend plus de temps.
Tu dois mettre des plans et puis tu dois donner des chèques pour les gens qui partent et tout. Tu vois, c'est pas.
Ouais, c'est clair.
C'est sûrement un des plus grands plans de redéploiement de capital humain, je pense, de l'histoire de la Silicon Valley, ça c'est certain. Parce que quand même, replacer 7000 personnes d'un service à un autre, je sais pas si vous avez rien qu'imaginer.
Bon, après, comment moi, je pense qu'on est encore en pénurie de talent dans plein de boîtes, il y a encore des guerres.
Et puis, vous en allez avoir combien qui vont se dire, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de me barrer.
Non, mais ouais,
c'est ça aussi.
Non, mais il y a un sujet humain, quand même, qui n'est pas anodin, quoi. Je ne sais pas.
Moi, tu es commercial et on te dit, tu vas travailler dans l'IA. OK, les gars, mais après, peut-être que chaque poste a été, on va dire, fité pour.
Après, je pense qu'il y a aussi, peut-être que tu confirmeras à la fin, mais il y a une grande peur de ces gens-là, dans la Silicon Valley ou ailleurs, mais même d'être remplacé, en fait. Donc, quand tu es chez Meta, tu es bien payé, tu as des actions gratuites et tout.
T'as la cantine gratuite.
Ouais, non, mais
la bouffe gratuite.
Moi, quand je me rappelle quand j'étais dans la Silicon Valley, je me dis, mais en fait, tu peux partir. Il y a des gens qui changent de travail, mais c'est rare quand même de. Tu changes pas de travail si t'as pas une autre offre à côté, en fait. Parce que t'as quand même une peur.
Oui, bien sûr.
Et de plus en plus aujourd'hui.
Parce qu'en
plus,
les coûts là-bas, t'as intérêt à avoir des bons salaires. Et pas les salaires d'ici. C'est 5 fois. Il te faut 5 fois ce que tu gagnes ici pour survivre correctement, et en particulier, c'est les enfants.
Bon, non, pardon François, mais pour moi c'est sûr que tous les secteurs, et nous ça doit nous apprendre un truc, c'est que tous les secteurs d'une certaine manière devront peut-être se réinventer, quel que soit le secteur, la banque, la santé, l'éducation, toutes devront réapprendre à travailler, sinon peut-être on aura des méta-like plans.
Ouais, bah ouais.
Peut-être.
Puisqu'on est dans les milliards, autant y rester. On est en bonne compagnie. Bon, malheureusement, on les voit passer, on les touche pas, ces milliards. Et quand on voit la valorisation future entre 1750 et 2000 milliards de, en fait, SpaceX, après l'IPO, ça donne le vertige carrément. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que un article des Échos met en avant le fait que, en privilégiant en quelque sorte SpaceX au détriment de Tesla, Elon Musk peut peut-être en fait fragiliser Tesla.
Oui.
Et alors, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que, évidemment, Elon Musk compte sur beaucoup d'investisseurs particuliers qui vont aller investir sans doute de l'argent sur SpaceX, ce qui est déjà le cas sur Tesla. Et voilà, est-ce qu'il y aura un effet de vase communicant? Est-ce que ça va pas fragiliser Tesla, qui a aussi besoin de beaucoup d'argent, parce que au-delà des voitures, il y a le robotaxi, il y a Optimus, le robot, etc., etc. Je voulais avoir votre avis en deux minutes là-dessus.
Après, fragiliser Tesla, je sais pas, ça fragilisera peut-être le cours de bourse de Tesla, mais Elon Musk, le cours de bourse de Tesla, c'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus, sachant qu'il a tous les pouvoirs, donc il va pas se faire licencier parce que le cours de bourse de Tesla se casse la figure. Ce qui est sûr, c'est que, comme tu l'as dit, Tesla, c'est une entreprise qui, par rapport aux autres entreprises, beaucoup détenue par les retail investors, donc par les particuliers. Peut-être que ces gens-là, ils vont mettre l'argent qu'ils avaient sur Tesla, ils vont peut-être le mettre sur SpaceX parce que maintenant, avec l'IA, des choses comme ça. Peut-être, on verra. Après, les chiffres que tu annonces, moi, j'attends de voir. Parce que SpaceX, ça fait 8 milliards de profits l'an dernier. Pour justifier 2000 milliards de valorisation, il faut quand même se lever tôt.
Ouais, il en faut beaucoup. Mais après, c'est vrai que c'est une belle réussite technique.
C'est une belle réussite technique, mais ça
avec un potentiel énorme.
Oui, mais un potentiel qui est basé, alors, comme Tesla, finalement, sur la personnalité d'Elon Musk, sur les projets d'Elon Musk. Donc, si tu crois au projet d'Elon Musk, ben, va investir dans Tesla. Si tu crois peut-être pas, je pense qu'il ne faut pas investir dans SpaceX d'ailleurs.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir dans SpaceX parce que tu achètes un bout de rêve, t'achètes un bout d'espace, t'achètes un bout d'Elon Musk et c'est le projet le plus dingue.
Ouais, et puis t'achètes Starlink. Futuriste.
Je pense que tous les gens que je connais, tous les geeks dans l'entourage, c'est un des trucs, une des rares actions, ils vont tous aller en prendre une ou deux juste pour se dire qu'ils en ont une ou deux. Et en fait, bah, vu le nombre de gens qu'il y a sur la planète, je pense qu'ils pensent ça. Ça devrait quand même faire une des belles valos. Après, on arrive dans une fenêtre où il y a un nombre d'IPO, de SPAC, dans le quantique, dans l'IA,
il va falloir faire péter le PEL.
Il
n'y
aura pas de l'argent pour tout le monde. Et c'est pour ça que...
Je pense que SpaceX n'aura pas de problème. Ils auront l'argent.
Je pense.
Non, mais en fait, c'est vrai que là tu l'as annoncé avec OpenAI, entre Anthropic, qui aussi prépare ce qu'il fait en pré-IPO également. Donc, on a celle-ci également. Ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est vrai que ça va être des valeurs... Voilà, surdimensionné par rapport à tout ce qu'on a pu avoir. Il y a quand même, eux, ils ont réussi quand même à mettre encore plus de valeur à SpaceX en intégrant XAI.
Ou pas.
Dernièrement. Comment?
Ou pas, parce que c'est quand même un gouffre de perte XAI.
Bien sûr. Non, mais comme l'IA, c'est tendance, c'est que ça fait grave.
Ouais, mais Elon Musk, il a quand même dit au procès, là, qui est contre Sam Altman, il a dit XAI, en gros, il a dit c'est nul. Hein. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Il a dit on est tout petit, on est en retard sur OpenAI.
Ouais, mais pourquoi il a fait cette intégration?
Bah parce qu'il a fait cette intégration parce que XAI a besoin de beaucoup d'argent et qu'il a pas, personne ne veut réinvestir dans XAI. Et donc, comment on fait pour gagner de l'argent? Et bien, on va dire l'argent qui vient de Starlink, on va le remettre dans XAI. L'argent que les investisseurs vont mettre dans SpaceX, je vais le mettre sur XAI. Moi,
ils ont mis un petit bout d'IA dans SpaceX pour encore plus valoriser SpaceX.
Oui, je pense que c'est l'idée, mais je pense
qu'en fait, c'est un peu ça l'idée.
Oui, non, c'est l'idée, mais
c'est vrai qu'on va regarder ça. Nous, on aura juste les pop-corn peut-être pour regarder, peut-être pas les dollars.
Juste un dernier truc, parce que tu parlais d'Anthropic, OpenAI et SpaceX, ça serait, les chiffres qu'on parle se confirment, les trois, ça serait, ça battrait tous les records. Mmh. Mais vraiment, des records... Et on aurait les trois en quelques mois finalement. Mmh. Donc ça serait quand même
période inédite, jamais vue.
Ah ben non, jamais.
Mais on banalise les 1000 milliards de les 1000 milliards de Valo quoi. Oui. En compte, t'imagines ?
Ouais, c'est dingue. Bah écoutez, voilà, on vous laisse avoir le tournis avec tous ces milliards et je vous remercie à tous les trois. Merci beaucoup Fanny.
De rien.
Fanny Bouton, directrice quantique chez OVH Cloud. Mon petit doigt me dit qu'on va parler d'OVH Cloud bientôt. Voilà.
Ouais.
Je n'en dis pas plus. Chut. Merci beaucoup Stéphane.
À très vite.
Stéphane Zibi, consultant spécialiste en transformation numérique et en IA. Et merci à Jérôme Marin.
Merci François.
Fondateur de cafetech.fr. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Jérôme.